Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. La lutte contre le terrorisme menace-t-elle notre vie privée? C'est la question dont nous allons débattre ce soir en compagnie de deux invités. Alain Grignard, qui est spécialiste de l'antiterrorisme à la police judiciaire à Bruxelles. Alain Grignard, qui est également islamologue, chargé de cours à l'Université de Liège. Nous avons également le plaisir de recevoir Pierre-Arnaud Perrouti, qui est le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi le directeur international du Centre d'action laïque. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation à débattre, mais avant de vous donner la parole, je vous propose de faire rapidement un petit tour de l'actualité laïque en Belgique et dans le monde. En Belgique, un détenu vient d'obtenir le droit à l'euthanasie après plusieurs années de procédure. Enfermé depuis près de 30 ans pour meurtre et délit à caractère sexuel, Frank van den Bleken se plaignait de souffrances psychiques insupportables. À plusieurs reprises, il a demandé à être transféré vers une prison capable de lui prodiguer des soins adaptés, un type d'encadrement existant en Hollande, mais pas en Belgique. Ce transfert lui a finalement été refusé. Le détenu a donc introduit une demande d'euthanasie qui, elle, vient de lui être accordée. Une décision qui soulève évidemment un débat éthique, pas tant sur la pertinence de la loi belge sur l'euthanasie que sur la politique pénitentiaire du Royaume. L'Observatoire international des prisons dénonce ainsi depuis plusieurs années les mauvaises conditions d'incarcération et d'accompagnement thérapeutique des détenus emprisonnés en Belgique. En Afrique du Sud, dans la ville du Cap, une mosquée ouverte aux homosexuels, aux femmes et aux chrétiens a ouvert ses portes la semaine dernière. À la base de cette initiative, on retrouve Taj Harghe, le directeur du Centre d'éducation musulmane d'Oxford en Grande-Bretagne. Selon lui, la création de cette mosquée ouverte est un début de révolution religieuse qui doit s'inscrire dans la lignée de la révolution politique lancée par Nelson Mandela en 1994 après des décennies d'apartheid. Notons cependant que le jour de l'ouverture de cette nouvelle mosquée, on comptait plus de journalistes que de fidèles sous la coupole. Pierre-Arnaud Perrouti, ce débat que nous abordons aujourd'hui sur le respect de la vie privée dans le cadre de la lutte antiterroriste est somme toute un débat assez récent. On pourrait même dire qu'il remonte au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Mais est-ce que les germes de ce débat n'existaient pas déjà avant l'attentat sur les tours jumelles ?
Oui, c'est certain. Effectivement, on n'a pas entendu 2001. D'ailleurs, la loi sur la protection de la vie privée en Belgique date de 1992. Donc c'est pour dire que déjà à l'époque, il y avait des questions qui se posaient en matière de traitement de données à caractère personnel et d'établissement de fichiers, de contrôle de ces fichiers. Mais il est sûr qu'en 1992, début des années 90, c'était le tout début de l'Internet, hein, de l'email, d'Internet qui allait révolutionner pas mal de choses, et qu'on était encore loin de s'imaginer l'ampleur que ça allait prendre un peu plus de 20 ans plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ben, je dirais peut-être trois éléments. Le premier, ben, vous venez de le mentionner, c'est effectivement cet attentat du 11 septembre 2001 qui a complètement changé la donne et changé l'attention que les démocraties portaient à ce problème du terrorisme, même si évidemment la lutte contre le terrorisme n'est pas née ce jour-là. Mais s'en sont suivis aux États-Unis et puis en Europe occidentale ou dans d'autres pays du monde une série de lois d'exception, de modification de la démocratie qui, au départ en tout cas, étaient censées durer un temps pour se protéger contre le terrorisme et puis qui ont perduré. Donc une série de moyens supplémentaires ont été donnés à des services de renseignement ou à des services de police. On a limité certains droits de manière temporaire au début et puis on a vu que ces limitations ont perduré.
Limiter quels droits par exemple ?
Alors, Typiquement, les droits d'accès des services de renseignement américains ont été étendus, donc ils avaient des possibilités plus grandes d'aller chercher des informations dont ils avaient besoin pour lutter contre le terrorisme. Toute la difficulté, évidemment, est de s'entendre sur de quelles informations on a réellement besoin pour lutter contre le terrorisme et auprès de qui on va les chercher. Donc, premier élément, c'est ce 11 septembre 2001. Deuxième élément, ce sont l'évolution de la technologie qui a explosé littéralement en 20 ans. On a des moyens technologiques d'aller chercher des choses qu'on ne pouvait pas aller chercher à l'époque. L'explosion des données a vraiment été réalisée. On peut collecter de plus en plus de données, on a beaucoup plus de place pour les stocker. Mais ce n'est pas seulement des données qu'on va chercher, c'est aussi des données que les gens mettent volontairement en ligne, typiquement sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, les gens mettent une série d'informations à la disposition de tout le monde, et des services de police comme, ou de renseignement comme d'autres peuvent y avoir accès. Donc ce n'est pas seulement des informations qu'on va chercher, mais aussi des informations que les gens donnent de manière plus ou moins consciente, ça ferait peut-être partie de la discussion tout à l'heure, mais certainement en grande partie de manière inconsciente. Et non seulement il y a plus d'endroits où les informations sont disponibles, mais en plus ces fichiers sont de plus en plus interconnectés. Du coup, la masse d'informations est plus grande. Et troisième élément, et j'en termine peut-être par là, troisième élément, c'est l'enjeu commercial, évidemment. C'est de se dire qu'il y a une série de compagnies comme Google, Facebook et autres qui vivent de la publicité qu'elles peuvent vendre. Et pour ça, elles ont besoin de connaître le profil des gens. Et donc, pas très surprenant, effectivement, si vous utilisez une messagerie comme Google, comme Gmail ou comme Hotmail, que si vous allez consulter un site de vente de meubles ou de chaussures, eh bien, pendant une semaine derrière, vous avez des publicités ad hoc à côté de vos mails. C'est pas un hasard, évidemment, c'est parce que ces sociétés collectent des informations sur les sites que vous visitez pour ensuite revendre ça à des gens qui y ont intérêt. Et donc, cette logique sécuritaire et cette logique commerciales font en sorte que, effectivement, la vie privée aujourd'hui est plus en danger qu'il y a 20 ans, nettement.
Alain Grignard, est-ce que c'est une réalité qui est aussi prégnante en Europe et en Belgique qu'aux États-Unis ? Pierre Arnaud nous l'expliquait il y a quelques instants. C'est effectivement au lendemain des attentats du 11 septembre qu'aux États-Unis, on a un petit peu été plus loin qu'auparavant dans la recherche de données à caractère privé. Est-ce que c'est vraiment la même chose qui s'est passée en Europe ou est-ce qu'il y a encore une nuance entre les deux rives de l'Atlantique ?
Comparé, de toute façon, ici, quand j'entends, disons, comparer les problèmes, les dérives commerciales avec la lutte contre le terrorisme, c'est quand même pas, disons, les terroristes qui ont inventé ça pour que le commerce prospère. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais je me souviens, quand vous avez demandé si tout ça avait commencé au 11 septembre, bien sûr que non. J'ai connu, moi, tous les balbutiements de l'avènement des écoutes téléphoniques. Quand j'ai commencé ma carrière, on était un des seuls pays d'Europe, si pas le seul, où on ne pouvait pas utiliser les écoutes téléphoniques.
Ça, à quelle époque ?
Ça s'est arrivé seulement en fin des années 90, hein, donc c'est pas le Moyen-Âge. Et en fait, quand on a demandé, enfin, qu'on a dit, tiens, ben, c'est un peu normal qu'on puisse utiliser ce type de méthode-là, parce que nos clients, eux, évidemment, sont beaucoup mieux équipés au niveau de la communication que nous, on ne l'est pour l'interception, ça a provoqué des levées de boucliers en disant, oulala, on va nous écouter, on va violer notre vie privée, etc. Mais c'est un débat qui était un petit peu tronqué dans la mesure où on avait peut-être pas d'écoute téléphonique, c'était interdit, mais on utilisait d'autres méthodes qui étaient beaucoup plus dangereuses au niveau, je dirais, de la protection de la vie privée, voire même de la démocratie.
C'est-à-dire ?
Alors, si vous voulez un exemple, bon, on ne pouvait pas écouter les communications des gens, mais sous réquisitoire d'un magistrat, parce que ce n'est jamais un policier qui arbitrairement décide d'utiliser telle ou telle méthode, on pouvait par exemple savoir tous les appels téléphoniques entrant chez vous ou sortant de chez vous. Donc on savait que tel jour, X avait appelé M. Y et que la communication avait duré 40 secondes, que M. Y avait appelé Mme Z et que la communication avait duré 10 secondes, mais sans savoir ce qu'il se disait. Alors on arrivait à des situations, pour prendre un exemple stupide, mais j'aime bien les exemples stupides, parce que je suis policier probablement.
Ça si, m'engage que vous.
Vous étiez la babysitter d'un parrain de la mafia qui, tous les mercredis, allait chercher sa livraison de cocaïne. Voilà. Tous les mardis, il vous demandait pour venir regarder le petit. Hein. Et quelque part, nous, on remarquait sur ce qu'on appelle les horaires malicieux, donc ces toiles d'araignée d'appels sortant, entrant, etc., qu'il y avait un appel qui était toujours avant une livraison. Cette dame-là se retrouvait, bien malgré elle, dans un dossier où elle n'aurait pas évidemment figuré s'il y avait eu une écoute.
Par curiosité, c'est un exemple fictif ou bien ça s'est vraiment passé, ça ?
Bon, des variantes de ça se sont vraiment passées. Des gens se sont retrouvés, disons, impliqués dans des toiles d'araignée, dans des dossiers, alors qu'ils n'avaient rien à y faire. Et si on avait eu des écoutes téléphoniques à ce moment-là, on aurait bien su, évidemment, pourquoi cette dame, enfin la dame ou la personne en question, était appelée. Donc, des techniques qui apparaissent pour le grand public extrêmement acquisitoires, bah, encore une fois, ça peut se révéler, disons, quelque chose de plus, comment je dire, de plus démocratique, je dirais, au niveau de la vie privée, quand elles sont appliquées, bien sûr, avec des contrôles qui sont nécessaires. Hein.
Mais vous n'avez-vous pas le sentiment, en règle générale, qu'aujourd'hui, et a fortiori depuis le 11 septembre 2001, qu'il y a une augmentation des moyens de recherche qui peuvent, à terme, aboutir à une plus grande immission dans la vie privée des gens ? Vous avez le sentiment que les balises légales sont suffisamment claires pour éviter toute dérive ?
Bon, il faut distinguer le cas des Américains, parce qu'on en a parlé, le cas belge. Moi, je me
contente de faire
du cas belge, puisque c'est un peu...
C'est pour ça qu'on vous a invité, en l'occurrence.
Par rapport aux Américains, disons que c'est extrêmement difficile de me prononcer. Maintenant, l'interlocuteur précédent l'a souligné, les personnes souvent qui se plaignent le plus, disons, des méthodes acquisitoriales qu'on utiliserait en prenant pour prétexte le terrorisme, sont souvent celles qui s'étalent sur Facebook à longueur de journée. Ça nous fait un peu rigoler, ceci dit. Bon. Maintenant, c'est clair qu'on dispose maintenant d'un arsenal qui est plus important que ce qu'on a eu avant. Mais le 11 septembre n'a été qu'un des éléments déclencheurs. Et cet arsenal, évidemment, n'est pas comparable à celui utilisé par les voisins lointains de l'Atlantique. Mais c'est clair qu'on dispose de techniques qui sont relativement inquisitoires par rapport à la vie privée. Mais techniques qui sont qui font l'objet d'une série de contrôles, bien sûr. Encore une fois, je l'ai dit, un fonctionnaire de police ne décide pas unilatéralement d'utiliser une technique de ce style-là. Et les contrôles sont... encore une fois, nombreux.
Pierre Arnaud Perotti, vous avez le sentiment, enfin c'est à vous de me le dire, mais qu'on va peut-être parfois trop loin dans l'immission, dans la vie privée, pour cause de lutte contre le terrorisme. Tout d'abord, est-ce que ça vous paraît légitime, cette lutte contre le terrorisme, avec des moyens comme cela ?
La lutte contre le terrorisme, oui, je pense que c'est difficile de dire qu'elle n'est pas légitime. Tout le monde aspire à vivre dans une sécurité pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Ça, je pense que la question n'est pas là. La question est celle de savoir où met le curseur et d'une balance constante entre la sécurité et le respect de la vie privée. Et l'impression qu'on a à la Ligue des droits de l'homme, on est loin d'être les seuls, c'est qu'effectivement, de ces éléments dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, la logique commerciale n'est pas la même que la logique sécuritaire. C'est simplement pour dire que des logiques concourent en parallèle pour arriver à un résultat qui fait que la vie privée aujourd'hui est plus en danger qu'il y a quelques années. Et surtout que les contrôles démocratiques sont sans doute insuffisants sur ces recueils de données.
Elle est en question où vous parlez de plus d'immissions dans la vie privée. Alors donnez-nous un exemple pour qu'on puisse comprendre.
Typiquement, il y a un certain nombre de fichiers policiers qui existent dans tous les pays. Pas plus tard qu'il y a une semaine, la France s'est fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir maintenu un fichier dans des conditions extrêmement floues de savoir qui s'y retrouvait, à quelles conditions, sans permettre un véritable droit d'accès des personnes à connaître ce qu'il y a dans ce fichier, et encore moins en demander l'effacement, alors que des personnes qui s'y étaient retrouvées n'avaient commis aucun délit, n'avaient jamais été condamnées, étaient juste suspectées ou avaient été entendues à un moment ou un autre dans le cadre d'une enquête. Donc il y a clairement, de notre point de vue, un problème. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun contrôle aujourd'hui, mais le contrôle est clairement insuffisant, à la fois par les organes qui ont été mis en place pour ce contrôle, et par le monde politique qui, effectivement, aujourd'hui commence à prendre conscience du problème, mais on est encore loin du compte en termes de réel contrôle démocratique.
Alain Grignard.
Là, je ne partage pas de l'analyse de mon interlocuteur, bien sûr.
Parce que j'en attendais pas moins de votre part.
En tout cas, au niveau policier, les contrôles existent. D'abord, au niveau des méthodes, encore une fois, inquisitoriales, ils existent puisque toutes ces méthodes sont autorisées et surveillées par la magistrature et que, in fine, finalement, le contrôle suprême, c'est au procès où si on utilise des méthodes qui ne sont pas légales, ce sera des mois, voire des années de travail qui seront perdues. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas ficher n'importe qui, n'importe comment. Ça, encore une fois, au niveau policier, on est soumis à de nombreux contrôles. On est plus soumis à des contrôles que, par exemple, des émetteurs de cartes de crédit ou d'un tas d'autres organismes qui violent aussi allègrement la vie privée.
Et ces limites se marquent comment, alors ? Quand vous dites qu'on est soumis à un certain nombre de contrôles, est-ce que ça veut dire que les critères, est-ce que les critères sont objectivés pour récolter des données ?
Comment je dire, toutes les banques de données qui sont utilisées par la police doivent être accessibles aux enquêteurs, enfin aux enquêteurs, aux contrôleurs, en tout cas, de toutes ces banques, de la commission de la vie privée, etc. Et on est contrôlé beaucoup plus souvent, encore une fois, comme je vous le dis, je patine un petit peu, que les émetteurs de cartes de crédit, par exemple, ou d'autres organismes. Non, le contrôle existe, ça c'est clair, ça.
Pierre Arnaud, le contrôle existe ?
En tout cas, au niveau policier, moi je ne me prononce pas pour les services...
Pour ne citer qu'une affaire, moi je me rappelle quand même l'affaire D14 à Liège, où des altermondialistes ont été mis sur écoute, et malgré les contrôles policiers, c'est des gens qui organisaient un contre-sommet, des manifestations en marge d'un sommet européen, qui était en partie lié à des syndicats, et qui ont, 3 ou 4 personnes ont été mises sur écoute, et in fine, on s'est quand même rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune raison. Et d'ailleurs, l'État belge a fini par être condamné en première instance, puis en appel, à verser des dommages et intérêts à ces personnes pour avoir été mis indûment sur écoute. Donc on peut dire effectivement qu'il y a des contrôles. Heureusement, effectivement, il y a des magistrats, et ce n'est pas dans le seul cas qui au bout du compte, limite ou sanctionne des atteintes à la vie privée. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire, loin de là, que les contrôles sont suffisants aujourd'hui.
Sur l'exemple de D14, par exemple, Alain Grignard.
Ça fait plaisir, parce que ça fait des années que je fais des débats sur le sujet. Et c'est toujours celui qu'on me cite, avec un ou deux autres, hein, j'aurais pu vous les dire à l'avance. Et ça veut dire d'abord qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, et deux, que le système, à un moment donné, a vu qu'il y avait un problème. Et que les gens ont été, les gens qui ont utilisé la mauvaise science et technique ont été punis. Donc ça veut dire qu'il y a des contrôles qui fonctionnent et qu'il n'y a pas tellement de cas, parce que c'est toujours les mêmes exemples qu'on me cite depuis quasiment 10 ans.
Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres, selon vous ?
Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas d'autres, mais je veux dire qu'on ne peut pas, on peut imaginer qu'il y a des gens parfois qui pètent un peu les plombs quelque part et qui outrepassent un petit peu les...
Des gens sous-entendus dans la police ?
Oui. Mais encore une fois, ils sont en général très vite repérés, parce qu'il y a quand même aussi une hiérarchie qui veille à ce que les normes soient respectées, ne fût-ce que pour éviter des ennuis, de s'éviter des ennuis à eux-mêmes. Mais encore une fois, les procédures de contrôle, elles sont, pour moi, elles sont efficaces, c'est clair. Encore une fois, si j'ai besoin d'une méthode inquisitoire, je dois en faire une demande motivée à la magistrature, et cette demande motivée doit l'être de façon quand même... C'est-à-dire parce que scientifique, en tout cas, bon, il faut bien...
Rigoureuse, en tout cas.
Rigoureuse, c'est clair, donc une proportionnalité, subsidiarité, etc. Le contrôle se fait pendant l'utilisation de ces méthodes, puisqu'on doit tenir au courant le juge d'instruction, par exemple, de l'évolution d'une écoute, etc., en permanence. Et encore une fois, le jugement suprême, c'est au tribunal, comme je le disais.
Enfin, en fin de compte, Alain Grignard, est-ce que vous plaidez, vous, pour moins de contrôle, pour être plus efficace dans votre travail ?
Je ne pense pas. Je pense que, justement, ces contrôles sont nécessaires pour éviter les abus. Ça, je ne suis pas moins démocrate que les gens qui militent dans des associations de droits d'homme. Je suis citoyen, avant tout. Avant d'être policier, je suis citoyen. Mais parfois, il faut bien se rendre compte que, moi, je veux dire... Le problème aussi au niveau du terrorisme, ça, je voulais ajouter, excusez-moi, c'est assez particulier par rapport à d'autres types d'infractions. C'est-à-dire que nous, on est condamnés à arrêter les gens avant qu'ils n'aient commis l'infraction principale. Parce que s'ils commettent l'infraction terrorisme, là, encore une fois, là, c'est la catastrophe. Donc ça veut dire qu'ils vont être plus souvent condamnés sur des intentions ou sur des débuts d'exécution que sur l'action elle-même, qui est plus facile, évidemment, sur laquelle il est plus facile d'enquêter, mais il est trop tard, quoi. Donc ça veut dire que nous, on a précisément recours de façon extensive à cette technique inquisitoire, d'écoute, filature, etc. Mais je reviens toujours à mon propos, les contrôles existent, ils nécessitent beaucoup de personnel. On peut considérer que c'est un handicap pour nous, mais bon, encore une fois, c'est la rançon de la protection de la démocratie. Hein. C'est clair qu'il y a une déclaration des droits de l'homme, donc là, vous êtes le défenseur, enfin, en face de moi, j'ai un défenseur de ces droits de l'homme en question, mais on oublie souvent un article qui dit que pour que tout le monde puisse jouir de tous ces droits de l'homme, il faut qu'un ordre suffisant règne. L'ordre, c'est un mot qui fait peur, mais l'ordre, c'est moi, en l'occurrence. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose d'effrayant, l'ordre. L'ordre, c'est ce qui permet à tout le monde de jouir de ses droits. Et ce n'est pas un ordre fascisant par essence, quoi.
Pierre-Arnaud Perrotti, les propos d'Alain Grignard sont plutôt rassurants. Vous restez inquiet, malgré tout ?
Mais j'avoue qu'il ne va peut-être pas arriver à me rassurer complètement aujourd'hui, parce que... effectivement, quand on voit d'autres... c'est le jeu du débat, mais quand on voit d'autres... Allez, prenons la BNG, la base de données nationale générale. On peut quand même pas dire que ça a fait l'objet d'un encadrement a priori législatif.
Vulgarisons, rappelez-nous ce qu'est la BNG.
Donc la BNG, mais je parle sous le contrôle de quelqu'un qui la connaît beaucoup mieux que moi. La BNG, c'est une base de données assez énorme à l'échelle de la Belgique. On a cité des chiffres, alors je ne sais pas s'ils sont corrects, mais on a dit à un moment qu'il y avait plus d'1,5 million de Belges qui se retrouvaient dans cette base de données, qui est apparue sauf erreur dans la fin des années 90. Et qui n'a toujours pas fait l'objet d'un encadrement strict, légal ou même par arrêté royal. Et donc, typiquement, le genre de fichier, on nous dira qu'il y a des contrôles, mais qui sont assez tentaculaires et sur lesquels on a peu de retour. Pas rassuré non plus, dans le sens où, effectivement, le contrôle, ce n'est pas seulement a posteriori ou au moment où on traite de ces informations, mais il y a un encadrement légal, législatif, qui ne suit pas l'évolution de la technique, ou qui la précède un peu trop. Un autre exemple pour sortir des exemples qu'on a déjà évoqués, il y a une directive de l'Union européenne qui traite de ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire les données de connexion, c'est-à-dire, comme on le disait, pas le contenu de votre communication, mais qui a contacté qui, quand, à quelle fréquence.
Par téléphone, par GSM, téléphone, par mail.
Exactement. Et toutes ces métadonnées peuvent donner quand même beaucoup d'informations sur les gens sans même avoir accès au contenu, parce qu'on peut aussi les géolocaliser, parce qu'on sait
répondra si ces gens n'ont rien à se reprocher, où est le problème ?
Mais le problème, évidemment, que la vie privée, c'est pas simplement... La question n'est pas de savoir si on a quelque chose à se reprocher ou pas. La vie privée, c'est le droit à mener une existence avec un minimum possible d'ingérence de l'autorité publique. Et ça comprend une dimension personnelle, mais ça comprend aussi une dimension sociale. C'est-à-dire que non seulement moi, je peux mener ma vie familiale, ma vie sexuelle, ma vie privée sans ingérence de l'État, mais je peux aussi voir qui je veux, rencontrer qui je veux, pour autant bien sûr que je reste dans les limites de la loi et que je ne cause pas de dommages à autrui. Mais donc c'est ce droit-là en tant que tel qu'il faut protéger, indépendamment du fait de savoir qu'on ait quelque chose à se reprocher ou pas.
Alain Grignard, vous partagez cette définition de la vie privée ?
D'abord, je vous dirais que nous, les lois, on est demandeurs, quelque part. C'est beaucoup plus facile d'exercer notre travail avec des balises précises que d'aller un petit peu, je dirais, d'errer un petit peu entre des zones mal délimitées et qui nous apporteront des ennuis et qui font, encore une fois, faire échouer parfois des mois, voire des années d'enquête. Donc les lois, on est demandeurs, nous. Hein, si vous voulez m'encadrer...
Pour éviter la vie de procédure, par exemple. Pour éviter les vices de procédure.
Pour éviter les vices de procédure, bien sûr.
Mais quand Pirano Perotti explique le droit à la vie privée, en fin de compte, c'est un principe. Est-ce que vous partagez la définition de ce principe tel qu'il l'a défini ?
Encore une fois, en tant que fonctionnaire, disons, de police, je n'engage pas la police dans mes propos. J'engage le citoyen Alain Grignard qui est, par accident ou par hasard ou par choix policier. Vous savez, la vie privée de monsieur ne me regarde absolument pas, ni ses horaires sexuels, ni à quoi il dépense son argent. Moi, je me contente sur ma clientèle, qui est très spécifique et qui est venue, disons, dans mon écran radar pour des raisons bien précises. Alors, c'est clair qu'on peut savoir beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce qu'on peut savoir beaucoup de choses qu'on va s'intéresser à tout le monde. Ça, c'est un fantasme, ça. Encore une fois, on a déjà suffisamment de travail avec des gens qui avaient vraiment la peine de travailler en profondeur sur leurs activités que de s'intéresser à des gens, finalement, qui ont une vie privée, disons, encore une fois, qui n'en feraient en rien la loi. C'est là que je comprends mal un petit peu
cette espèce de... Ce que Pirano Perotti disait également dans sa réponse, pour le paraphraser, c'est qu'il y a un moment aussi, on ne sait pas trop selon quels critères on peut se retrouver dans cette base de données, on ne sait pas trop ceux qui s'y retrouvent, on ne sait pas non plus comment en sortir. Est-ce qu'il n'y a là pas un manque de transparence qui peut être vécu pour les gens qui se retrouvent dans ce genre de base de données comme une ingérence profonde dans leur vie privée ?
À la limite, moi, encore une fois, sur le plan strictement légal, je ne suis pas une ceinture noire, disons, dans la gestion des banques de données. Je sais seulement ce que je peux faire à mon niveau, donc les gens qu'on peut y introduire, la procédure qui est nécessaire. Il y a toute une série de choses qui sont prévues, où les gens peuvent rester dans une banque de données, ils doivent en être sortis s'il n'y a pas d'autres activités, etc. Tout ça est codifié.
Vous avez le sentiment, Alain Grignard, qu'on comprend mal votre métier parfois, qu'on vous prête des intentions que vous n'avez pas ?
Il y a beaucoup de fantasmes, c'est évident, c'est clair que cette espèce d'impression d'être espionné par tout le monde, et encore une fois, ce qui m'étonne souvent, c'est de voir ce que les gens mettent eux-mêmes de leur vie privée à disposition de tout le monde.
Le temps avance très très vite, Pirano Perotti, une rapide réaction à ce qu'Alain Grignard vient de répondre, et puis j'aborderai un dernier point de ce débat.
Oui, deux réactions rapidement. La première, c'est que pour qu'il y ait atteinte à la vie privée, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait abus policier. Je pense qu'il y a effectivement une majorité de policiers qui font très bien leur travail, et que dans le cadre difficile qui est le leur, et que c'est pas la question ici. La question, c'est que, tel qu'il est organisé, le droit ou certaines tentatives de législation portent en elles-mêmes atteinte à la vie privée. L'exemple que je commençais à donner tout à l'heure, cette directive de 2006 de l'Union européenne sur le qu'on appelle data retention, sur le recueil de données, vient d'être annulée par la Cour de justice de l'Union européenne, c'était en avril 2014. Et que dit la Cour ? Que cette directive, qui donc s'impose à tous les États et que tous les États membres devaient transposer dans leur droit interne, cette directive s'immisce de manière particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect à la vie privée. Et elle est susceptible de générer dans l'esprit des personnes concernées le sentiment que leur vie privée fait l'objet d'une surveillance constante. C'est ça qui fait l'objet d'une violation de la vie privée. Bien sûr, si un abus est commis, il doit être sanctionné. Mais même avant qu'il y ait un abus commis, c'est ce fait de recueillir autant, d'être en capacité de recueillir autant de données, sans même les collecter, d'être en capacité de les recueillir, qui fait l'objet d'une violation de la vie privée. Et deuxième élément, effectivement, au-delà des contraintes législatives, il faut que les gens se bougent aussi. Et il faut que les gens arrêtent de mettre n'importe quoi sur Facebook, comme vous le dites. Et peut-être qu'il faut que les gens se protègent et commencent à réfléchir à se protéger et donc comment crypter leur communication. Il y a une série de projets dans plusieurs pays qui vont dans ce sens, où les gens pourraient crypter leurs échanges de manière à être moins lisibles par les services ad hoc.
Alain Grignard, une réaction ?
Non, c'est une décision de la Cour de justice, qui sont des gens très intelligents. Mais quand j'entends parler de sentiment, ben là, on est en pleine subjectivité, bien sûr. Le sentiment, c'est quelque chose, encore une fois, scientifiquement, je ne sais pas le mesurer, moi. Bon, c'est clair qu'on peut avoir le sentiment que... Mais encore une fois, là, c'est difficile de tracer des limites. Maintenant, je respecte tout à fait, encore une fois... Moi, je ne demande qu'une chose, pour venir, faites-moi des lois convenables à ce moment-là, dans lesquelles je ne devrais pas me perdre, justement. Puisque c'est ça qui semble être le problème. Maintenant, je vous dirais, et ce n'est qu'une demi-boutade, trop de renseignements tuent le renseignement. C'est-à-dire que les gens qui ont trop de renseignements, les services qui ont trop de renseignements, mais finalement, ils ne savent plus jamais, disons, tirer l'essentiel, ni quoi que ce soit d'ailleurs.
Ça veut dire que dans la pratique, on n'essaye pas, en tant que policier, de rechercher tout et n'importe quoi comme type de renseignement. On cible, on travaille de façon ciblée.
On parle souvent de tous ces programmes d'archives américains où ils ont des banques de données absolument gigantesques, mais finalement, qui les analyse, comment est-ce qu'on va finalement en extraire des renseignements pertinents? Vous êtes perdu dans une espèce de bloc, d'une immense masse de données.
Alain Grignard, je vais prendre la balle au bon parce que le temps avance très vite, il nous reste 3 minutes pour aborder ce débat, mais il y avait évidemment, on a tous en tête cet exemple d'Edward Snowden, cet ancien employé de la NSA, l'agence américaine de sécurité, qui a fait ses révélations et qui tente à prouver que depuis les États-Unis, la NSA peut puiser un petit peu dans les données privées des citoyens européens notamment, et en ce compris même certains chefs d'État, d'États membres de l'Union européenne. Est-ce qu'on a véritablement les moyens légaux et techniques de lutter contre ce type d'ingérence étrangère, en fin de compte, Pierre-Arnaud Perrotti?
L'ego, oui, mais à partir du moment où, si ces faits devaient être confirmés, on a quand même beaucoup de témoignages qui nous font penser qu'ils le sont, on ne sait pas jusqu'à quel point. Mais effectivement, on a des agences de sécurité étrangères qui s'embarrassent assez peu du droit de l'Union européenne. Alors on peut mettre toutes les lois de protectrices qu'on veut, s'ils ont les moyens de le faire et que ça ne leur pose pas de problème de le faire, je vois mal comment on va pouvoir les stopper, si ce n'est avoir recours à des technologies dont celles je vous parlais, comme le cryptage, qui ne rend pas impossible, évidemment.
Qui n'est pas à la portée de tous non plus.
Ces services sont équipés pour pouvoir lire des messages, mais ça rend les choses singulièrement beaucoup plus difficiles. Mais moi, j'en profite pour vous dire effectivement que la Ligue des droits de l'homme a déposé plainte contre X pour ses écoutes. Et donc, la justice belge est saisie et j'espère qu'elle fera son travail de manière à pouvoir éclairer ces éléments.
Alain Grignard, une petite question provocante en ce qui concerne ce scandale Prism, révélé par Edward Snowden. En fin de compte, sans prêter de velléité terroriste aux États-Unis, on ne sait jamais non plus quelles peuvent être les intentions in fine de gens qui collectent des données de ce type-là. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de nos législateurs et de nos services de police de protéger les citoyens belges de ce type d'ingérence venue de l'étranger?
Les services de police, c'est plutôt un travail qui marche des services de renseignement. Mais maintenant, il ne faut pas être hypocrite non plus. Tout le monde sait que ça se pratique depuis des années, et pas seulement les Américains, que ce soit les voisins, que ce soit les Français, les Anglais, tous les gens qui ont une technologie suffisante. Tout le monde espionne tout le monde, oui, mais tout le monde le sait en plus, donc c'est un petit peu, moi ça me fait un peu ricaner quelque part.
Mais ce n'est pas inquiétant sur le plan de la vie privée, savoir qu'on est nombreux, enfin qu'ils sont nombreux à venir.
Oui, ça peut être inquiétant, on peut se sentir inquiet, moi ça me fait plutôt rigoler, dans la mesure où j'imagine encore une fois cette monstrueuse base de données et où je suis peut-être perdu là-dedans, moi quelque part, moi ça ne m'inquiète pas des masses.
Vous avez l'impression qu'ils ne tireront rien d'une base de données trop vaste?
C'est vrai que le principe, je veux bien le mettre, oui, c'est choquant d'être espionné par ses amis, mais oui, quelque part, tout le monde espionne tout le monde. Donc, et si on en avait les moyens, probablement qu'il peut-être y aurait des programmes chez nous aussi. Je ne peux pas jurer que si on avait plus de visibilité politique et plus de moyens, mais il n'y aurait peut-être pas des... Ce n'est pas le cas pour l'instant. Il n'y a pas d'agence d'espionnage chez nous. Il y a du contre-espionnage, mais pas d'espionnage. Mais c'est peut-être faute de moyens, peut-être.
Bien. Alain Grignard, Pierre-Arnaud Perrotti, c'est ici que se referme ce débat. Ça va très, très vite. Mais je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci évidemment à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Libre Ensemble qui sera consacrée à la question de la dépénalisation des drogues, une émission qui vous sera présentée par Pilar Arcas. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter pour nous faire des commentaires, des suggestions, des remarques, nous contacter par courrier électronique, par email donc. Certains le liront peut-être malgré nous. L'adresse est libreensemble@laicite.net. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 02 627 68 11. Voilà, vos commentaires sont plus que les bienvenus. Je vous laisse à présent avec notre générique qui est, je vous le rappelle, un extrait d'un morceau de Duke Ellington qui s'intitule Brotherhood, la fraternité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.